Vous êtes toujours sur Aligre FM à l'écoute de Recherche en cours, deuxième partie de cette émission. Il va être question de synesthésie, Marie-Catherine.
Oui, et nous allons nous livrer à une petite expérience sensorielle avec Vincent Mignereau, qui est donc consultant chercheur pour le projet Synesthéorie. On écoute.
Il faut s'imaginer une nappe qui envahit tout l'espace, qui est d'un noir assez profond, qui monte un petit peu jusqu'au brun et qui vibre à la vitesse de l'onde acoustique la plus grave. C'est celle qui prend effectivement tout l'environnement. Elle se pose, elle se situe devant, à côté, derrière moi, plutôt en bas. Vous entendez d'autres sons qui circulent, qui apparaissent, qui disparaissent dans le médium. Ils sont les plus colorés. Les plus chaleureux aussi. Et puis si un son est à droite, effectivement, je vais le voir à droite. Et s'il circule vers la gauche, s'il passe de mon oreille droite vers l'oreille gauche, voilà, l'image va faire de même. Et chaque son, certains sont très très courts. Ils montrent des petites explosions. Je peux presque en figer les franges et observer comment elles sont finement crénelées, un petit peu comme les dents d'une scie de bijoutier. Les sons qui montent vers l'aigu laissent une traînée qui se dissipe un peu comme s'estompe la queue d'une comète. Et d'autres sons plus saillants cisaillent l'espace avant de disparaître, exactement au moment où le son disparaît. Et le tout est un spectacle immersif dans lequel mon être physique et les autres objets sont en quelque sorte dissous, comme oublier le temps où je me focalise sur les images sonores.
Merci beaucoup Vincent Mignereau. Alors je vais un petit peu expliquer votre parcours et vous allez un petit peu nous expliquer aussi ce que vous venez de nous faire vivre. Alors vous êtes, on pourrait dire autodidacte, vous avez suivi des études de psychologie, vous avez écrit un essai de philosophie et aujourd'hui vous vous intéressez à la synesthésie qui est cette capacité qu'ont certaines personnes à associer différentes modalités sensorielles. Donc vous avez un projet qui est le projet Synesthéorie. C'est un projet qui envisage l'étude des synesthésies et de leur rapport dans l'art, la philosophie et la science. Et vous vous intéressez pour tout ça, à tout ça pour une bonne raison, c'est que vous êtes vous-même synesthète et vous êtes capable en particulier, comme on vient de l'entendre, de voir les sons. Alors j'ai une première question, qu'est-ce que c'est pour vous la synesthésie au quotidien? Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une sorte de réalité augmentée?
Très bien. Alors, je suis heureux que nous enchaînions cette discussion avec le sujet précédent, puisque j'utilise une comparaison que vous allez comprendre aisément. Pour moi, les synesthésies au quotidien, c'est un petit peu comme pour tout un chacun quand il utilise un ordinateur. Vous utilisez iOS ou vous utilisez Windows, vous avez votre écran avec votre bureau et les icônes, etc. Eh bien, un synesthète, ce serait comme quelqu'un qui regarderait son écran et qui, en même temps qu'il fait des opérations sur son écran, verrait le langage de programmation qui a servi à mettre en place les modules, les logiciels, les icônes à tel endroit et tous les processus qui sont...
C'est une sorte de cauchemar, non?
Non, parce que cette double image, en fait, elle peut être omniprésente et emmener certains jusqu'au trouble, mais la plupart du temps, chez 4 à 5 % de la population, elle passe complètement inaperçue pour la raison suivante. C'est que c'est exactement le même sens qui est porté à la fois par le langage de programmation et votre bureau. Ce qui fait qu'il n'y a pas de contradiction dans les sens portés par ce que vous percevez. Donc tout est complètement fluide.
Et en somme, vous n'avez pas l'occasion de vous parler de vos synesthésies avec d'autres personnes. C'est pour ça que vous en êtes rendu compte, je crois, très tard, vers l'âge de 20 ans.
C'est ce qui émerge effectivement de toutes les études sur les synesthètes, c'est que si on ne leur dit pas qu'ils sont synesthètes, ils ne le réalisent jamais. Il faut imaginer que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des millions, peut-être des centaines de millions de synesthètes qui n'ont jamais su que les autres autour d'eux ne fonctionnaient pas comme eux sur le plan de la représentation.
D'accord. Et alors, parmi les penseurs, les artistes, les scientifiques, Wittgenstein, Mozart, Einstein, on trouve des témoignages comme ça de pensées imagées. Est-ce à dire que la synesthésie procurerait des facultés cognitives supérieures et qu'elle serait la marque des génies?
Alors, il ne faut pas s'avancer trop, il faut être rigoureux dans cette approche-là, effectivement. Alors, pour rappel, les synesthésies ne sont pas simplement des correspondances entre les cinq sens. Les synesthésies sont vraiment un fonctionnement systémique global qui se manifeste à la présence à soi-même. C'est-à-dire que les synesthètes peuvent avoir des correspondances, effectivement, entre leurs cinq sens, mais aussi faire des correspondances entre des modalités affectives sensorielles, entre des modalités cognitives affectives sensorielles, et même motrices.
Donc là, c'est-à-dire il nous faut des exemples.
Par exemple, vous parliez de certains auteurs qui, par exemple, voient leurs pensées. Donc, si je prends un concept abstrait, si je prends le concept de système, par exemple, qui est un concept très abstrait, nous n'en avons pas de représentation figurative commune, admise. Eh bien, un synesthète va avoir sa propre représentation abstraite du concept à chaque fois qu'il va y penser. Mais, pas seulement, c'est-à-dire que chez certains synesthètes créatives, particulièrement riches en termes de synesthésie et de sensorialité. C'est plus une ambiance qui va accompagner l'émergence du concept à l'esprit. Il va y avoir potentiellement un affect qui va se lier à la représentation. Et c'est le cas pour tout le monde. Hein. Quand on pense, on a des affects, mais cette fois, il va être complètement attaché à la pensée en même temps qu'à l'image. Et il va peut-être générer une sensation intérieure particulière.
Par exemple ?
Si, alors, moi j'ai découvert mes synesthésies tardivement et j'ai en fait compris ce qui avait été pour moi l'inspiration du texte de philosophie que j'ai écrit il y a quelques années. C'était pour moi une tentative de réharmoniser la représentation intérieure portée par mes pensées. Autrement dit, quand je proposais un argument et que cet argument n'était pas équilibré pour moi, j'avais une sensation intérieure qui n'était pas belle, pas esthétique au sens à la fois belle et intelligente. Et je réharmonisais à la fois l'image abstraite et l'émotion qui était liée avec sur le plan synesthésique. Pourquoi c'est de l'ordre de la synesthésie ? C'est que c'est automatique, systématique, irrépressible et que c'est à chaque fois que je pense. C'est pour ça qu'on n'est pas dans l'ordre de l'association, on n'est pas dans le champ de l'association secondaire acquise potentiellement au fil des études. C'est-à-dire que je n'ai pas accroché artificiellement un affect au mot système, c'est plutôt que le mot système. Je reprends mon exemple, hein. Le mot système ou les mots que j'ai appris progressivement se sont en quelque sorte plaqués sur un support sensoriel préexistant que nous avons tous à la naissance. Vous parliez tout à l'heure de quelques travaux qui portaient sur ce sujet-là. Nous avons un support sensoriel sur lequel viennent se greffer les acquisitions secondaires. Le synesthète est celui qui maintient en permanence une communication visible à l'esprit de l'inscription des acquis secondaires sur ce support sensoriel premier.
Mais alors comment objectiver un petit peu tout ce dont vous nous parlez là ? Parce qu'on pourrait avoir du mal à vous croire. On a envie d'avoir... est-ce que c'est réel ? Est-ce que ça existe réellement ? Est-ce qu'il y a des études scientifiques qui le prouvent ?
Oui, il y en a. Et c'est vrai que ce sujet souffre d'un passif, d'un certain passif, puisqu'il a été longtemps caractérisé d'ésotérique. En revanche, maintenant que de nouvelles techniques, de nouveaux protocoles permettent de mieux observer le cerveau, mais aussi de mieux de proposer de meilleurs protocoles d'études en dehors de tout système d'imagerie, il est possible maintenant, de façon statistique, de différencier un non-synesthète d'un synesthète. Voilà, donc les outils sont là aujourd'hui pour le faire. Ils sont encore nouveaux, ils sont neufs, mais il y a les outils pour le faire maintenant.
Serge Tisseron, vous vouliez réagir ?
Oui, tout à fait. Ce processus est effectivement extrêmement important. On le découvre aujourd'hui avec des personnes qu'on a longtemps considérées comme inaptes à la socialisation, qu'on appelle les autistes. Mmh. Et on s'aperçoit que beaucoup d'enfants autistes ont cette capacité, en effet, à un très haut degré. Et il y a notamment Temet, je crois qu'il s'appelle.
Daniel Temet.
Voilà, c'est ça, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « Je suis né un jour bleu », parce que pour lui, les mots, les nombres, les jours, les années, tout a des couleurs, tout a des saveurs, voilà. Donc en effet, ce que vous décrivez est extrêmement important et c'est aujourd'hui une piste de recherche très importante pour mieux cerner cette fameuse intelligence fluide, hein, indépendante du langage, qui fonctionne avec des ressources qu'on n'avait pas jusque-là prises en compte et des correspondances sensorielles qu'on n'avait pas encore là jusqu'ici prises en compte.
Je vous suis complètement et je propose un concept justement qui semblait manquer pour expliquer d'où venait l'inspiration créatrice. On constate maintenant que les auteurs dont vous parliez, de Pythagore à Daniel Tammet, en passant par Newton, Mozart, Einstein, Wittgenstein, Richard Feynman, tous ont créé des objets culturels, des œuvres, des solutions de physique fondamentales extrêmement prouvées. Enfin voilà, on sait qu'ils ont créé des œuvres objectives, mais ils ont tous témoigné avoir été inspirés par un environnement sensoriel d'ordre abstrait, imagé, plus ou moins insaisissable, très difficile à verbaliser. Et il manquait quelque chose à cet endroit-là pour expliquer d'où venait leur intuition. On ne peut plus parler d'intuition parce qu'il n'y a rien derrière le mot intuition, il n'y a pas assez de matière. Et je propose le concept d'eurésthésie. Alors l'eurésthésie, ça vient de l'origine, du mot eurisko grec qui veut dire la connaissance, la découverte, et je l'assemble avec le mot esthétique qui veut dire à la fois la sensibilité et l'intelligence, et je donne le mot eurésthésie qui est acquérir une connaissance objectivable, c'est-à-dire scientifiquement démontrable, réfutable, mais à partir d'une inspiration typiquement sensorielle multimodale.
D'accord. Alors, si j'ai bien compris, il y a de multiples formes de synesthésie. Quelle est la forme la plus répandue ? Est-ce qu'on le sait, ça ?
Oui, on le sait. La forme la plus répandue, c'est la synesthésie graphémique. C'est-à-dire que dans la population, on dit qu'il y a 5% de synesthètes. Il est fort probable que ces 5%-là soient à 90% fait de personnes qui voient les lettres en couleur.
Voient les lettres en couleur, d'accord.
Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elles pensent à une lettre ou qu'elles lisent une lettre, une couleur va être associée à cette lettre, pas forcément sur le graphème, mais quelque part dans l'espace. Alors il y a des synesthésies projectives ou des synesthésies plus intérieures, mais la régularité, l'automatisme fait que c'est de la synesthésie et que c'est toujours la même couleur pour la personne au fil de sa vie.
Et est-ce que c'est toujours la même couleur entre synesthètes ?
Et non, justement,
non.
Il y a une...
c'est pas tout à fait reproductible, de ce point de vue-là.
C'est assez compliqué, mais c'est très riche, du coup, parce qu'il y a une forte idiosyncrasie, c'est-à-dire que les synesthètes ont des associations différentes les unes des autres. Cependant, de nombreuses études montrent aussi qu'à côté de ces idiosyncrasies, il y a des points communs entre les synesthètes.
Des invariants, d'accord.
Des invariants, tout à fait.
Et est-ce qu'il existe des tests, justement, pour les détecter, ces synesthésies ? Parce que peut-être que beaucoup de gens qui nous écoutent, ou certains en tout cas, sont synesthètes sans le savoir. Comment ils pourraient le savoir ?
Bien sûr. Il y en a plusieurs. Je vous en recommanderai un en particulier qui circule sur le net, qui est un test libre et qui est traduit en plusieurs langues. C'est celui, alors vous chercherez sur le réseau, vous cherchez Cytovic, C-Y-T-O-W-I-C, et Eagleman, donc l'homme aigle. C'est un test qui permet, avec une répétition très forte des stimuli, donc des stimuli graphémiques, mais aussi des stimuli auditifs, qui sont lancés aléatoirement et répétés souvent, qui permet de biaiser l'effet de mémoire, en fait. On vous donne ces stimuli-là et vous associez une couleur, avec une palette de couleurs, et vous associez une couleur. Ce test est assez long, mais à la fin, vous allez obtenir des statistiques sur votre perception, sur vos associations, qui vous permettront de dire, eh bien, je suis synesthète graphémique, je suis synesthète musicale, ou plus particulièrement sur le timbre des instruments, etc.
En somme, une personne non synesthète ne sera pas capable d'associer systématiquement une couleur précise avec, par exemple, un son, parce qu'elle ne sera pas capable de mémoriser cette association qu'elle a faite, alors qu'un synesthète sera capable de le faire systématiquement, et c'est comme ça qu'on le repère.
Tout à fait, le synesthète n'utilise pas sa mémoire pour associer une couleur à un stimulus.
Alors moi, il y a une question que je voulais poser. Est-ce qu'il y a une sorte de revendication sociale de la part des synesthètes ? Est-ce qu'il y a des associations qui ont un discours du type « on veut être reconnu en tant que synesthète, on est particulier, il faut faire des choses particulières à l'école, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des choses similaires qui existent ?»
À part la mienne, effectivement j'ai une association qui sous-tend le projet Synesthéorie, à laquelle qu'on peut rejoindre effectivement pour discuter de toutes ces problématiques-là, mais c'est très nouveau. D'une part, si on ne vous dit pas que vous êtes synesthète, vous ne le savez pas. Mais c'est extrêmement intéressant justement d'ouvrir ces débats-là, notamment en pédagogie, vous en parliez tout à l'heure, parce qu'on découvre maintenant, et ça a été le cas pour moi, je le découvre bien plus tard, a posteriori, mais pour moi, les apprentissages des mathématiques ont été comme une communication impossible. Alors les apprentissages fondamentaux, je les ai bien acquis, mais dès qu'on est sorti dans une forme d'abstraction, pour laquelle le langage n'était plus du tout le même que le mien, puisque moi, les mathématiques ont une forme et un déploiement dans l'espace qui accroche ma connaissance, qui n'est pas du tout la matérialisation avec des équations noir sur blanc, etc. Ça crée des biais dans l'apprentissage qu'on retrouve chez beaucoup, beaucoup de synesthètes.
Alors, je vous conseille d'aller voir le site de Vincent Mignereau, le site Vous allez peut-être nous donner le...
C'est le site du projet Synesthéorie. Donc c'est une théorie ensemble. Le préfixe syn, c'est celui de syntaxe, synthèse, synonyme.
Je vous conseille d'aller voir, c'est très intéressant.